Ouais, c'est un peu le... Alors, attends. Alors là,
spoil pas, on a déjà
technologie.
Quelque chose là-dessus.
3. Alors, tiens, on va leur montrer comment on fait dans la vraie vie, en fait.
Ouais.
Donc, les gars, quand je dis top, vous appuyez sur démarrer l'enregistrement. Ensuite, on attend parce que s'il y a du bruit, genre du vent, des trucs comme ça, comme essayer là, de l'enlever, là, mais bon, là, ça va être mort.
Des travaux chez
et ensuite, on refait 3 du top et tout le monde dit top en même temps.
Go.
Ok. 3, 2, 1. Top. Mais non, le deuxième. Alors voilà, ça marche jamais.
C'est vraiment comme dans la vraie vie.
3, 2, 1, top.
Pas mal.
Attends. Non, c'est pas ça. Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 149. On est dehors, ce qui est vraiment une première absolue. Et on est en direct de Nantes. On est au Tech Today, Web Today, avec des gens qui boivent de la bière et qui sont extrêmement silencieux visiblement.
Ceci est un podcast audio. Ouais.
Voilà, bon, on a une petite musique d'intro. Et voilà, et donc, on a des notes. Alors,
bonjour, bienvenue à
Nantes. Non, on va pas le refaire quand même, voilà. Bah bienvenue, merci d'être avec nous. J'espère que vous appréciez le moment. On va se présenter parce que visiblement tout le monde ne nous connaît pas. Donc nous on est un podcast sur les technologies, enfin pour les développeurs. On est historiquement.
Et les développeuses.
Et les développeuses. On est.
Elles sont deux.
Elles sont deux. On est historiquement
elles sont
hein. Sur Java, la JVM, tout ça, mais bon. Vu que Java c'est quand même plus mature que Hype, on a un petit peu ouvert le canal, donc maintenant on parle de tout.
Même de JavaScript.
Ouais.
Effectivement, même de trucs qu'on connaît pas d'ailleurs.
Surtout de trucs qu'on connaît pas du coup maintenant.
Genre JavaScript.
Donc on va se présenter de ma gauche à ma droite. À ta droite, non, c'est quand même. Vas-y.
Donc Arnaud Héritier, je travaille chez CloudBees, société qui contribue fortement à Jenkins. Et voilà.
D'accord.
Antonio, moi j'écris des livres.
Ouais. Fiction.
Fiction.
Ouais.
Genre Java E9, Java E10.
Ça c'est de la fiction.
Pas mal. Et indépendant.
Et indépendant.
Moi je suis Emmanuel Bernard, je travaille pour Red Hat sur la partie data, middleware, tout ça. Et la nuit je mixe des podcasts.
Sympa. C'est Vincent, je travaille pour le projet Open Source XWiki et la société éponyme.
Éponyme.
Éponyme forever. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, c'est pas drôle du tout, mais bon voilà.
Et moi je suis Guillaume Laforge, donc je travaille sur le projet Groovy depuis 13 ans et je suis développeur advocate chez Google pour la partie Google Cloud Platform.
Mais c'est nouveau ça.
Google, oui voilà. Ça fait une semaine et demie que je suis chez Google. Voilà.
Il est donc, passé de Guillaume Groovy Google.
Que des jeux.
Que des jeux. Voilà.
Ouais, bon, bah, on va le renommer les Gast Goddard. Mais... vraiment, ils vont bouger, hein, quand même.
Et un bisou aux Riviera Dev, qui sont en même temps que nous, et sous la pluie apparemment, au dernier moment.
Comme nous.
Faut aller dans le sud alors. Hein, bah,
donc. Donc nous on est à Nantes, hier il y a eu des bonnes rages quand même, donc là on est content, on est dehors.
Il fait beau,
mais il fait beau.
Mais il fait frais. Mais il fait
ouais,
beau.
Ça va. Et donc on est au Tech Today, et si Quentin est encore ici, on veut bien qu'il vienne nous expliquer un petit peu, mais qu'est-ce que c'est?
Quentin, c'est quoi le Tech Today?
Alors en fait, le Tech Today, ça fait partie du Web Today.
Ouais.
Et en fait, le concept du Web Today à la base était de faire un festival de tout ce qui fait le digital.
Avec les doigts.
Ouais.
Avec
les main doigts. Gauche, main droite.
Donc on aurait pu faire un congrès de proctologie, mais on a décidé de convoquer tous les mecs qui font du dev.
Alors il y a un truc, faire gaffe, c'est que quand on recrache la bière à cause de la blague, faut faire attention à la multiprise qui est juste en dessous.
Donc en fait, il y a 8 ans, le Web Today, c'était un truc qui durait une demi-journée. On était super contents parce que le président de la CCI était venu inaugurer. On était sans Pékin et c'était trop drôle.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de S à la fin?
C'est ça, parce qu'en fait, au début, c'était une demi-journée. Et en fait, maintenant, le truc s'appelle Web Today, mais ça dure 3 jours.
Du coup, il faut le dire 3 fois. Web Today, Web Today, Web Today.
Non, web, ça compte
Web Today, Web Tomorrow, Web Today After.
Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a grossi. Maintenant, c'est 3200 personnes cette année qui viennent. Donc, il y a des gens plutôt start-up, CEO, investisseurs, grands groupes. Et depuis l'an dernier, on a raccroché une track Tech Today, ouais, où on a décidé de faire venir tous les doers. Donc, il y a les développeurs back-end, comme Antonio, développeurs front-end, comme Antonio, les développeurs mobiles, comme Antonio.
Antonio, on l'appelle full stack. Partial full stack.
Mais également les designers. Notamment,
il y avait Antonio, pareil, si vous avez vu des démos d'Antonio, c'est un peu. C'est quelque chose.
Et également tous les gens qui font la SEO, la SIA.
Ouais, SIA.
SIA, c'est le référencement payant. En clair, acheter du Google.
Ah, d'accord, okay.
Qui c'est qui veut m'acheter?
Et en fait, tous les doers, c'est ça. Et donc là, on a bien poussé cette année. On est devenu une track importante du Web Today.
Ouais, il y a du. Bah déjà, il y a plein de tracks parallèles sur le Tech Today. Quand on regarde, vous avez fait des volumes. Pas mal de workshops. Je disais que c'était exprès.
En fait, le but, c'est qu'il y ait deux tracks workshops en permanence pour qu'il y ait des gens qui fassent vraiment. C'est-à-dire que par exemple, on n'a pas pris de talk sur Kubernetes. Par contre, on a pris un workshop de 3 heures pour faire du Kubernetes. On a fait un vrai workshop sur XWiki par exemple demain. Donc, sur éponyme. Et donc en fait l'idée est de pousser à fond sur les workshops pour que les gens fassent en vrai et que ce soit également une conférence où on est moins segmenté. Par exemple, il y a des talks sur PHP, il y a des talks sur du front web, enfin des trucs qu'on va pas nécessairement voir à des confs comme Devox ou des choses comme ça. On essaye de mélanger plus les gens.
Ouais. Et c'est pas mal en fait. Du coup, on s'est mélangé en tech et on s'est même mélangé au Web Today d'aller voir des trucs différents. Non, alors, on a de la bière. Ouais, ouais. Et il y a trois entités qui nous ont beaucoup aidés pour avoir la bière. Ça a été un challenge. Et la première, c'est Clever Cloud.
Voilà. Donc là, je prends ma casquette Clever Cloud.
Voilà.
Donc, y a Clever Cloud, il y a JFrog et il y a NetApp6 en fait qui ont aidé à sponsoriser cette soirée.
Donc un grand merci à eux, à eux trois. C'est tout? Tu vas pas dire ce que ça fait?
Alors bah, du coup je vais juste parler pour Clever. Clever, c'est une plateforme d'automatisation de l'IT. En fait on est les gens qui font en sorte que vous poussez votre code et à partir de ce moment là nous on garantit qu'il fonctionne. Et du coup,
alors ceux qui connaissent pas le podcast, Guillaume, c'est le mec qui fait des blagues en tâche de fond. Oh, bon, il y en a des biens, il y en a des un peu moins bien. Ouais.
Sur le lot, des fois, il y en a des biens.
Voilà, on est dans le volume, quoi.
Et du coup, en fait, après, on manage tout. C'est-à-dire qu'on déploie l'application, elle va se déployer toute seule dans sa VM ou dans ses VM si tu as plusieurs applis. Mais en fait, c'est nous qui gérons les security fixes, c'est nous qui gérons s'il faut la relancer, si elle est crashée, c'est nous qui gérons s'il y a besoin de plus de ressources, moins de ressources. En fait, toi, tu oublies que ça fonctionne et juste tu te concentres sur ton boulot qui est d'écrire du code et de t'amuser. D'accord. Et donc, tu es plus efficace et plus heureux.
Donc, la prochaine étape, c'est que vous écrivez les applis pour les gens ou...
Ah non, surtout pas.
Ça marche.
Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On a des clients dans 1500 villes dans le monde et on a des gros clients, des tout petits clients et on le fait soit dans leur infrastructure, soit dans la nôtre.
D'accord. Cool. Merci. Et merci encore, Quentin, pour la bière et l'organisation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, on est au Web Today. C'est dans une zone artistique. Alors, je ne sais pas si Nantes est comme ça partout.
Et je pense... Non, parce qu'il y a des prisons à Nantes.
Et des châteaux de régions dans lesquelles ils sont pas. Enfin, c'est incompréhensible. Et donc, c'est super marrant d'être dans cette zone artistique. D'ailleurs, l'architecte, par contre, je pense qu'il a pris une carte magnétique et puis il a balancé les bâtiments comme ça au hasard. Donc, les salles, elles sont un peu à droite, à gauche. C'est assez marrant.
C'est vrai que le Web Today, il faut se balader à droite, à gauche. C'est une drôle ambiance. On passe d'une salle à une autre. Ouais.
Et on croise des éléphants.
Voilà. Mais au moins, on est dehors parce que s'il y a une énorme voûte et on est dehors. Donc, on voit le soleil et donc on est moins la tête dans le...
La voûte, c'est le nuage, Emmanuel.
Ouais, là, mais non, mais... Ouh, ça va pas bien finir. Il y a des bars à whisky qui font hyper mal à la tête sur le matin. Voilà.
T'as qu'à boire le soir à la place. Hein.
Ah ben, j'ai pas eu le temps.
On a dit que c'était un podcast technique.
Et c'était, enfin, je crois que c'est la conf où j'ai vu le plus de gens avec des caméras à trépied au monde, quoi. Une personne sur trois a une caméra à trépied, prend des photos, s'en va dans une autre salle. C'est assez marrant.
Ouais, puis la ville sponsorise, la région, enfin, ouais. On a l'impression que ça bouge.
Ouais.
Ça bouge pas mal.
Donc, on s'est pas mal, enfin, moi et Vincent, je sais, on s'est pas mal concentré sur Web2Day, donc on va vous faire un petit résumé des petits trucs que nous, on a bien aimé. Déjà, il y avait beaucoup de panels, ce qui était intéressant, comme, différent en termes de ce qu'on voit d'habitude à des DevOps ou des machins comme ça.
Ouais, moi j'ai bien aimé parce qu'on est tech, on a l'habitude d'aller dans les conférences tech et c'est vraiment du pur tech, hein, souvent. Et là, c'était sympa d'avoir des tracks différentes de startups et diverses. Et personnellement, je sais pas vous, personnellement, j'ai assisté plutôt à ces tracks autres que tech pour un peu s'ouvrir et réfléchir un peu à d'autres choses. C'est ce qui m'a bien plu au Tech Today, au Web Today.
Il y a une grosse partie startup aussi, c'est plutôt pas mal.
Ouais.
Ça bouge. Ils bougent aussi là-bas au fond.
Ils font du sport là-bas. C'est bon ça.
Je sais pas ce qu'ils font.
Ouais, mais on peut pas. Il faudra vraiment s'entraîner au cardio pour pouvoir faire le podcast et le sport.
Il faut faire les mouvements comme les mecs tout là-bas. Là. Vous les voyez là. Je sais pas ce qu'ils font, mais.
Alors, sur les sujets, moi j'avais vu Hera, mais la chaussure connectée. Et le sentiment que j'ai eu, c'est que bon, ils s'étaient lancés sur le truc et c'était un succès par accident, ce qui est, moi je trouve assez emblématique des expérimentations sur l'IoT, quoi. On se dit, ah bon, là c'est le succès, mais il y a plein d'échecs, de trucs de flop qui ne marchent pas. Et c'est une chaussure marrante, donc c'est une chaussure avec de la fibre optique. Et du coup, on peut choisir la couleur qu'elle a. Et du coup, voilà, on a une. Bon, bah, Antonio, ça serait en noir, mais.
Oui,
sinon. Sinon, voilà, si on a je sais pas, un pantalon rouge, une robe rouge, on prend en photo la robe, et puis ça prend la couleur. C'est assez marrant comme.
Mais la chaussure, elle se connecte à quoi alors? À la robe?
La chaussure, elle se connecte en Bluetooth à ton téléphone et il y a une appli qui dit qui permet de la commander. Donc aujourd'hui, ils n'ont que la couleur, mais ils envisagent de faire des trucs un peu caméléon, des trucs, enfin un peu plus de réactivité, de dynamisme dessus.
Alors parfois, vous allez aussi entendre des bruits dans le ciel. Ce sont des avions. Il y a un aéroport pas très loin.
C'est l'avion juste cru d'ailleurs, t'as vu
Je ne connais pas la marque, mais.
Voilà, sinon il y avait le business face à un mastodonte et un thème que moi j'ai pas mal ressenti, c'est que ça tapait sur les gros du web.
Déjà, hein.
Ouais. Ça tapait sur les gros du web, Google, Microsoft,
c'est pas bien, hein.
Apple, etc. On voyait qu'il y avait une volonté de fournir des alternatives en fait sur plein de choses. Ben, là c'était beaucoup sur la
récupérer le contrôle de tes données et voilà. Pas les laisser dans la nature à quiconque.
Ouais.
Mais d'ailleurs, il y avait un speaker de Google qui t'expliquait comment enlever le moteur de recherche Google sur Android, là, par exemple.
C'est vrai?
Ouais, c'est un mec de Google qui a fait ça.
D'accord.
Donc, c'est pas spécialement contre Google non plus.
Non, mais dans les panels, on voyait les petits qui ragent, quoi. Ils ont la niaque.
Mais dernièrement, on assiste pas mal à. Hein, on va faire différemment. On est européen, on peut faire des moteurs de recherche différents, etc.
Un cloud souverain, tout ça.
Oui, voilà. Non, ça marche pas super bien pour l'instant, mais.
Non, mais sinon, il y avait Tristan Nito, de ex Mozilla, qui fait justement un cloud. Cozy Cloud, qui est là pour.
Ah, c'est pas Mozilla.
Non, vous ayez le contrôle de vos données. Donc il va l'agréger les données de droite à gauche, c'est crypté, chiffré, je vais y arriver. Faut parler français et tout, c'est l'impression. Chiffré pour que uniquement vous ayez accès aux choses. Donc c'était intéressant d'expliquer. Il expliquait un truc intéressant, c'est que Facebook, en termes de coût par utilisateur, donc le coût total de Facebook divisé par le nombre d'utilisateurs aujourd'hui, chaque utilisateur leur coûte entre 5 et 6 dollars seulement.
Qui a un compte Facebook ici?
Faites du bruit.
C'est un podcast audio.
Eh ben, vous coûtez 6 dollars à Facebook, mais vous leur apportez beaucoup plus.
Qui n'a pas de compte Facebook ici? Bon, 50-50.
Minorité,
quand même. 10%. Mais des grandes gueules, ouais.
Sinon, il y avait.
la HR de Google qui parlait de leur expérience sur le management et comment ils font tout ça avec pas mal de données. Et notamment l'expérience de, je sais plus si c'était Larry ou Sergey qui avait décidé, ouais, les managers, c'est à rien, il a tout viré. Le mec, le directeur technique, il avait 700 mecs en direct et ça s'est pas bien passé apparemment. Elle n'est pas rentrée dans le détail. Et donc, ils en ont rajouté, mais en réfléchissant à quoi ça sert, qu'est-ce qu'était un bon manager, un mauvais manager. Et donc, c'était assez intéressant de voir comment ils essaient de
construire. C'est comme la galinette cendrée, ouais. Les bons chasseurs, les mauvais chasseurs.
Je veux bien une bière, s'il vous plaît. Réalité virtuelle, donc ils trichent un peu parce qu'ils incluaient les cardboard, mais 24 millions de matériel vendu de réalité virtuelle. Donc le mec, il y croit vraiment à fond sur pas mal de choses, notamment les parcs d'attractions.
C'est les Google Glass ?
Mais il y a aussi, il y avait les cardboard, c'est Google. Mais par exemple, il y a quand même des casse-codeurs qui ont essayé la réalité virtuelle. Hein, Vincent et moi, par exemple, on a essayé le stand et on a failli se casser la gueule dans le vide. On s'est cassé la gueule dans le vide. Donc pourtant, on voit que c'est pas encore super, super réel, mais en fait, quand t'es dedans, que tu marches sur la poutre et que t'avances dans le vide,
la simulation, c'est sur la poutre, sur un gratte-ciel.
Tout en haut d'un gratte-ciel, et t'as le vide tout autour de toi, et puis à la fin, t'arrives au bout, tu sautes. Mais en fait
c'est marrant, c'est que quand on regarde dehors, donc on a un mec qui a un casque, il voit rien, il marche sur son truc, et puis d'un coup tu le vois, littéralement, les gens ils sautent dans le vide, et donc t'as les mecs qui gèrent, qui essaient de rattraper, le fil qui est trop court, qui s'arrache.
Vincent, il a arraché le fil, Vincent, je te jure. Mais du coup, tu vois, les mecs, ils tremblent, tu trembles des jambes, comme si t'avais vraiment le vertige. Ouais, ouais.
Pendant un quart d'heure, tu trembles des jambes.
C'est vrai. Après, il y a la... Alors, vous savez, on dit numérique en français, mais il y a pas mal de gens qui utilisent digital. Et donc, notamment, il y avait un retour de la SNCF là-dessus. Bon, on n'a pas été convaincus avec Vincent. On va peut-être pas aller trop, mais voilà, il y en a qui font bien, il y en a qui font moins bien. Moins bien.
Bah, ça dépend comment tu utilises tes doigts, quoi.
Il y avait un autre truc intéressant, on en discutait du business model. C'est une start-up qui est là pour... vous achetez votre voiture et après, vous la louez donc un certain nombre d'heures par mois. Et du coup, ils vous remboursent de l'argent. Donc, ça permet à des gens qui n'ont pas de quoi s'acheter une voiture au prix total, d'en gros, d'avoir une voiture à temps partiel, entre guillemets. Et Citroën s'est associé à cette start-up. Il y avait des choses intéressantes, c'est que ça a augmenté leur taux de vente de 3 à 5% sur le pilote qu'ils ont fait, ce qui est assez énorme pour un vendeur de voiture. La réflexion qu'on avait avec Vincent, c'est que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes et pourquoi ils sont passés par une start-up. Et ce qu'on disait, c'est que c'était le mastodonte, il a du mal à se dire je lance un projet avec 15 personnes, mais comment je fais pour le tuer, quoi. Et tuer des projets, c'est des choses qui sont très mal fait par des grosses boîtes.
Et comment tu vires les gens ?
Comment tu vires les gens ? Comment tu les recueilles ? Voilà. Et la start-up, ça fait partie de sa vie, de sa motivation, etc. Donc il préfère ces approches-là, je pense. D'autres choses que vous avez trouvées ?
Moi, je voulais avoir ton avis sur les congélations des ovocytes, Emmanuel.
Alors, moi, je l'ai fait.
La congélation des ovocytes ?
Ouais, c'était un panel sur... alors, en fait, Google, je crois, à un moment où le fait encore, propose à ses employés...
C'est Google ou c'est Facebook ? C'est Facebook, non ?
Ah, c'est peut-être Facebook. Google aussi ?
Les deux. Ah oui, Apple, Google, Facebook, ouais, tout le monde.
Ouais, là, t'en fais
pas. EDF, GDF, Areva...
Areva, ouais, c'est important parce que.
Oui.
Et le débat, c'était en gros, c'était des entrepreneuses, les deux personnes qui étaient dans le panel. Et est-ce que ça a du sens de dire je congèle mon ovocyte pour me garder l'option? Là, je suis à fond dans ma carrière, beaucoup en tout cas. Est-ce que je fais congeler mes ovocytes pour ne pas perdre cette option-là d'avoir des enfants un peu plus tard ou quand j'arrive?
Et les cascodeurs, c'est un podcast technique.
Et masculin, en fait.
Ouais, on ne s'y connaît pas trop,
oui,
site.
C'est vrai.
Et du coup, il y avait des débats. En fait, c'est le côté pervers, c'est que c'est des grosses boîtes qui te le proposent. Donc, c'est un peu l'incitation. Est-ce que ça peut être pris de manière perverse? Mais après, du point de vue de la personne qui fait ce choix-là, c'est une option supplémentaire. Donc, ça dépend comment tu vois la chose. Et puis... quelqu'un avait un point intéressant, c'est mais quelle est la place de l'enfant dans cet univers-là où c'est vrai qu'on
on
a moins de temps de manière.
On congèle aussi.
Il y en a qui l'ont fait.
Enfin, il y a des vieux parents.
C'est mal dit, hein.
Et du coup, voilà, c'était la technologie qui nous offre des options un peu au-delà. On a un peu en avance par rapport à notre éthique et notre naturel.
Genre, les congeler juste pour une soirée, des fois, ce serait pas mal. Ouais, c'est pas
je veux bien. Sinon, une des rares confs vraiment web que j'ai vu, c'est sur les cauchemars analytiques. Donc, il expliquait 7 choses à pas faire dans l'analytique. Et donc, c'était une conf technique, mais pas du tout la technique que moi je connais. Il n'y avait pas de code, quoi. Il était là. Alors, Google Analytics, voilà les trucs à pas faire. Faut absolument taguer tes pages, comprendre ce que tu veux faire, pas tes métriques, mais tes KPI. Du coup, savoir ce que tu veux taguer sur chaque page. Sinon, tu vas te lancer et tu vas perdre toutes ces données. Et puis, tu peux pas revenir. Apparemment, tu peux pas revenir en arrière dans le temps pour les réinventer. Donc, il était assez cash comme mec. Je me rappelle plus son nom, mais c'était un peu sans pitié, mais c'était intéressant comme façon de présenter. Quoi.
J'ai rien compris.
Ouais, mais c'est pas grave, bah, t'es un développeur back-end.
C'était une conf de management.
Par contre, j'étais impressionné parce qu'en gros, ils considèrent ça à la limite comme leur base de données client, mais anonyme. C'est-à-dire que tout ce que nous, on utiliserait des logs pour analyser après les choses, ils envoient tout et ils taguent avec du sémantique sur chaque page. C'est envoyé sur Google Analytics et à partir de là, il fait ses analyses, ses approches, savoir si... ce bouton-là, il marche bien, il marche pas, pourquoi, les campagnes. Expliquer un truc marrant, c'est qu'à un moment, il disait, voilà, faut taguer vos campagnes, les gars, que ça soit campagne email, campagne Twitter, campagne télé, campagne radio. Donc, moi, j'ai fait, alors, comment tu fais pour taguer une campagne radio? Et il dit, qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs? Oui, donc, il disait, ce qu'il faut faire, c'est, alors, la méthode un peu à l'arrache, c'est, tu prends une URL / ma campagne, qui est relativement simple pour les utilisateurs à se rappeler. Ils vont arriver par là. Évidemment, tu vas perdre des gens, genre les fécos, ils vont dire oh, moi, je vais pas faire / ma campagne, je vais aller direct sur le site. Donc, ceux-là, tu vas les perdre, mais ça te donne un rendu intéressant. Les QR codes, ça marche bien pour ça. Et après, sinon, il y a des outils qui disent la campagne télé, le spot, il passe de telle heure à telle heure, et du coup, ils flaguent le trafic juste à ce moment-là, et donc, ils savent l'impact d'une campagne donnée. C'était intéressant comme truc.
J'ai rien compris.
Faut arrêter de boire. Hein. Qui a vu le code dans les films au cinéma? Elle était bien celle-là. Hein. Donc c'est un mec qui a fait un blog Tumblr parce qu'il prend les copies d'écran des bouts de code qu'il y a dans le cinéma. Et en fait, il s'est pris au jeu et du coup, il a fait une rétrospective des films des années 70. Docteur Folamour avec les bandes. Non, Tron, il n'a pas mis, mais les premières. Où tu as effectivement un écran avec un peu d'assembleur qui avait été copié du bouquin Intel, épais comme ça. Donc, il avait copié le premier truc. Et donc, au début, c'était ça va paraître technique, on s'en fout de ce qu'il y a écrit. Ensuite, les mecs, ils se sont dit putain, merde, il me faut du code, qu'est-ce que je fais? Ils faisaient bouton droit, voir la source. Il faisait le copier-coller de la page web de sa banque, en l'occurrence. Et il avait collé le HTML, tu vois. Avec son numéro de compte. Alors, on voyait pas dans ce truc-là, mais s'il avait scrollé un petit peu, je pense qu'à un moment, il y en avait un qui aurait pu être mal.
Et Matrix, alors?
Il a pas parlé de Matrix, tiens.
Ouais, du JavaScript.
Non, et après, il parlait de... Maintenant, c'est avancé, donc c'est du vrai code qui fait des choses. Donc à un moment, il a découvert dans Iron Man, à un moment, il l'upload dans sa première armure là qu'il fait dans les caves. En fait, c'est du code qui bootstrap l'ordinateur Lego, là. Donc, voilà. C'était fait à base de Lego, on l'a pas vu dans le film, mais voilà. C'était quoi le truc c'est dans, je crois, la Silicon Valley, la série. Il y a un bout de code un peu compliqué donc qui parle justement de cet algorithme de compression magique. Et donc les mecs qui l'ont... Parce qu'en fait, comment tu fais pour tester? Tu recopies le code, tu le fais tourner, tu regardes s'il se passe des choses. Et donc ils l'ont fait tourner, puis il y avait marqué... Dream on Assaults. En gros, c'était un petit private joke pour les développeurs. On envoie le code tu runs le code et tu t'es fait choper. Mais t'es le seul à avoir compris, t'as le truc, une dimension supplémentaire dans le film. C'est marrant.
À nos auditeurs de podcast, notre public est enfin dans l'ombre et se les pèle.
C'est ça. Quand même.
Comme nous.
Comme nous,
comme les ovocytes. Comme les ovocytes. Tiens, prends ça. J-Frog. Donc ça, c'est le deuxième tiers de la bière.
Merci J-Frog
pour la pour ce Bah, vous êtes des...
On applaudit.
Des habitués.
Merci. Des grands habitués du podcast qui nous offrent la bière très régulièrement et pas que, des bonbons.
Des t-shirts. En fait, on va croire qu'on fait autre chose que du soft. Ouais.
Produits dérivés, tout est dans le produit dérivé.
Et bien sûr, des grenouilles que vous avez tous sur votre bureau. Si c'est pas le cas, il y en a encore, là, faut les prendre, ouais. Hein, on en a plein.
Plein de beaux t-shirts,
collector. On est fabricant de t-shirts, taille S, M, L, XL, 2XL, de bonbons verts, qui sont très très bons.
À la pomme, très bon,
il y en a plein là.
Testé sur mes filles.
Voilà, et accessoirement, on sponsorise aussi depuis quelques temps les cascodeurs dans des sessions bières, on va dire. Hein. Globalement, c'est un concept qui se répète depuis quelques temps. C'est pas très sérieux, non, mais en fait, ça marche, quoi. Voilà. Et alors, dans notre temps libre, quand on a fini de faire les t-shirts, la bière, les machins, etc., on édite des solutions de gestion des binaires. Donc, c'est ces machins qu'on veut pas gérer, en fait.
Ah, c'est pas les binous, c'est binaires.
Et voilà, exactement. Ces machins qu'on veut pas gérer parce que ce qui nous intéresse, c'est le code, finalement, hein, la beauté du code, machin, tout ça, quels que soient les technos. Et après, les binaires, bah, c'est on récupère toutes les dépendances qui viennent de machins et de bidules. Qui ont été mal écrits, de Maven par exemple, qui ont été mal écrites et qu'on veut intégrer dans notre code sans vérifier si ça marche ou pas. Et on les intègre et il faut les gérer tout ça. Et c'est ce que font nos outils. Et après, on les distribue aussi. Donc on a des outils qui s'appellent Artifactory, Bintray. Et depuis peu, on a un machin qui s'appelle JFrog X-Ray, comme c'est écrit dans le dos là. Voilà. Ça permet de voir au travers des grenouilles, en fait. Voir au travers des grenouilles, c'est que quand vous codez des grenouilles, comme nous, on fait ça du matin au soir, à un moment donné, vous mettez des morceaux de grenouilles qui viennent d'ailleurs et vous ne connaissez pas trop ce que c'est, licence, vulnérabilité, etc. Et donc, X-Ray va vous permettre de faire tout ça, avec en plus un suivi des graphes de dépendance entre les machins, bidules, les morceaux de grenouilles qui viennent de... Parce que les grenouilles héritent de grenouilles ancestrales. Hein, et des fois, on se retrouve dans sa grenouille avec un morceau de grenouille qui a été écrit en 1932, avant l'informatique. On ne sait pas si ça marche. On ne sait pas si ça ne va pas faire péter tout. Et comme le dirait un spécialiste de Docker, on ne sait pas si ça ne va pas faire péter le kernel et toutes les images Docker qui tournent dessus. Voilà. Donc X-Ray, ça permet de vérifier ça.
Oula.
Merci beaucoup. Et on est super content de sponsoriser les cascodeurs.
Ben merci encore à vous. C'est super sympa d'avoir des.
Et la prochaine fois, tu penses au vin chaud. Parce qu'on se répète.
Écoute, ça sent le Alpe Jug. Voilà. Donc là, on va parler plutôt de news. D'autres conférences. Il y a juste Spring.io qui était il n'y a pas longtemps. Pour les gens qui font du Spring, Spring 3 est bientôt déprécié. Et Spring 5, ils vont essayer de l'aligner avec le JDK 9 en termes de release. Mais si JDK 9 est en retard, il ne s'arrête pas.
Mars 2017.
Et Devox US.
Mars 2017 aussi.
Ah, c'est marrant ça. Et donc Devox aux États-Unis. Alors là, il y a un vol de grenouilles. Il pleut comme des grenouilles. Que c'est quoi
Alors, on va essayer de poser une question à notre public qui récupère des grenouilles. Qui connaît Devox?
Pas mal.
Et ben maintenant, Devox est
donc, in San Francisco. Hein.
America, San Jose.
Et Devox Legacy, ça en est où?
Donc, alors, du coup, vu qu'ils partent aux US, on s'est dit ça sert à rien.
Hein, ça sert à rien de faire
on fait pas Devox Legacy, c'est un peu dupliqué sinon.
Donc voilà, il y aura un Devox US en mars 2017 à San Jose, à 6 mois de Java One. On va bien voir ce que ça va donner.
Ouais, bon, comme Java One c'est mort, il était temps de faire quelque chose. Hein.
Ouh, on voit qu'il est passé chez Google lui. Hein. C'est vrai que t'avais pas le droit de parler.
T'avais
pas
le droit de parler, ouais.
Bon bah,
il a
bientôt un manuel.
T'es pas prêt d'expliquer la Java One, toi, de toute façon.
Sinon, on va parler des langages. Et il y a des gens qui ont fait des analyses sur les blocs d'exception. C'est un peu chaud, on essaie de parler, mais en fait, il y a des
deuxième plaie d'Égypte. Les grenouilles partout. C'est écrit dans l'Ancien Testament.
Ouais. Et donc, dans Java, il y a des...
On commence avec les lancers de testicules. On commence pareil.
On a dit podcast technique.
Donc, exception. Et donc il a testé les blocs d'exception et il a regardé. Alors, avec 6... Alors, c'est pas en pourcentage, malheureusement.
Les blocs mais... d'exception, oui. Je en sais gros, qu'on écrit a... des bons articles sur nos blogs, mais quand même.
En tout cas, t'as deux fois de la vache. Merci.
Merci beaucoup, les filles.
Donc, en numéro 1, le log statement. Bon, normal. En numéro 2, le print stack trace. Ça, c'est quand même sérieusement moins bien, les gars. Faut pas. Parce que le print stack trace, en gros, il arrive dans le system out. Donc, on va en parler un peu après. En numéro 3, des blocs vides. Alors ça, c'est avaler les exceptions, c'est un peu moyen, hein. Toujours l'exception, avec le commentaire, what to do.
Ne peut pas arriver.
C'est ça. Ça
ne peut jamais arriver.
Il y a relancer une exception, mais il y a aussi system out. Donc system out et print stack trace, les gars, faut arrêter. Et je vais vous expliquer un truc. Quand on écrit dans la console, c'est très très lent. Que vous écriviez en Python, en Java, en ce que vous voulez, écrire dans la console, c'est une catastrophe en termes de vitesse. Et donc, si vous écrivez vos logs dans la console avec du print ou du log4j qui part là-dessus, etc., vous allez commencer à râler parce que les frameworks ils sont lents, etc. En fait, c'est vous qui ralentissez tout.
Ça sent le vécu.
Tout, ouais. Bah ouais, c'est clair, c'est énervant. Tu sais, tu te fais chier à optimiser ton truc et au final, ils mettent des systèmes out dans les cas d'exception.
Et en même temps, il y a Quentin qui arrête pas de nous amener des bières.
Là, on est à deux bières par personne.
Bon, on va finir, mais.
Alors qu'on a demandé du vin chaud.
À la place des logs et c'est pas bien.
Alerte à double. Ah oui, c'est pas mal. Alerte à double.
Moi j'ai eu mieux, c'était il y a une dizaine d'années, en prod il y avait des alertes bip. Donc sur ton poste ça faisait bip, mais en prod il n'y avait pas de carte son et ça marchait pas et on avait des bugs.
C'est bon ça.
Donc pas de bip, pas de log.
Bah, c'est, il n'a jamais eu une erreur sur le serveur parce qu'il avait oublié de mettre AWT headless je sais pas quoi et oui. L'inter graphique essayait de démarrer.
C'est vrai ça.
Voilà, on va parler du web, notre grande expertise hein, globalement. Et donc, il y a des gens qui ont fait de l'analyse sur Selenium ou des choses comme ça qui montraient les.
Ah oui, c'est bien ça.
Donc c'est l'approche, on fait des tests fonctionnels entre guillemets, et donc faut tester la UI, etc. Et ils ont détecté bah, qu'est-ce qui cassait d'une version à l'autre d'un projet et qu'il fallait corriger dans les tests. Et donc, pour détecter, en fait, il y a deux grandes approches. Il y a détecter par nom d'attribut ou par la structure, d'abord un div, ensuite un b, enfin ce que vous voulez. Soit par valeur, soit par des opérations. Et donc, le plus gros, c'est effectivement le attribute base locator. Ce qui a du sens, c'est l'ID, donc c'est le truc qui est évident. Et c'est sûrement celui qui est le plus utilisé. Donc, c'est normal que c'est celui qui... Que ça soit celui qui plante le plus. Ce qu'il faudrait savoir, c'est en proportion d'usage, quel est le taux de cassure pour savoir bah, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait privilégier en termes d'approche.
Je pense que notre public n'a pas suivi.
Ouais. Et en plus, ce n'est pas le plus important.
Ouais, mais c'est chiant. Maintenant.
Ouais, mais c'est facile à corriger. Compliqué, c'est quand c'est pas prédictif et que ça casse une fois sur mille.
Ah ouais.
Donc les attentes, les waits que tu ne fais pas sur les bons objets, etc., c'est surtout ça qui casse avec Selenium. C'est compliqué
d'accord.
À gérer. Ouais.
D'accord. C'est le web, il faut faire de l'argent, on va parler de pricing. Ça, c'est de la transition.
Le domaine de prédilection.
Apple a parlé qu'il allait réduire le prix de la marge qu'il prend sur les applications quand il fait de l'abonnement.
Sur l'App Store.
Google, ouais. Ils vont peut-être suivre, enfin, ça réfléchit. Et du coup, XWiki s'est dit, mais pourquoi pas nous ?
Bah oui, comme on est la même taille qu'Apple, XWiki, c'est logique. Et donc, dans XWiki, il y a une version XWiki Cloud et on a pour contrer notre ami et concurrent Confluence, on décide de casser les prix. Et éponyme également. de casser les prix. Donc, on a une super offre. Et mieux qu'Apple, parce qu'ils descendent de 15%. Ouais. Nous, on descend de 200%.
Pas mal. On passe de 30% à 15% sur l'App Store.
Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire... Et du coup, vous vous mettez en danger là-dessus ?
Bah, on démarre à 10 euros pour 10 users par mois.
Ouais.
Et effectivement, l'idée c'est de voir ce que ça va générer comme volume.
Donc, du coup, c'est du A-B testing, mais sans B, quoi.
C'est du A-B testing.
Non, mais bah, voilà, des petites structures, le meilleur moyen de tester,
c'est de tester
et puis de voir comment ça se passe.
C'est exactement. Douter ?
Non, douter, on... D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont sortis, les gens de... Les gens de Comic Strip, mais. Attends. Eh les gars de Comic Strip, la bière est là. Voilà, quelqu'un vient les prévenir.
Mais au moins ils ont chaud.
On va passer au Big Data. conséquences et impacts du machine learning. C'est toi qui as fait le match là, non?
Ouais, mais alors je sais même plus, ça fait tellement longtemps que j'ai mis, je sais même plus ce que c'était, c'était quoi.
Ben, je sais pas.
J'étais peut-être pas chez Google à l'époque, t'as cliqué dessus au moins que je puisse me rappeler de quoi c'était. Conséquences du machine learning.
Ah putain, c'est des slides,
on est là.
114 slides.
On a reçu de
ça des conséquences.
On va couper, on va couper au montage.
Faites gaffe, ça a des conséquences.
En plus, une page toutes les 5 secondes, on n'est pas rendu. Ouais, bon, bah, c'était de la daube.
Non, c'était pas mal. Vous verrez dans les show notes. Vous verrez dans les show notes qu'il y a 114 slides sur cette présentation.
Ah, si, si, attends.
Qui présente.
Oui, bah, ah, oui, si, c'est tous les epic fails du genre. Le big data qui prévoit que ça y est, ton bébé arrive à terme, mais en fait, il y a une fausse couche.
Et en fait, il est congelé. Perdu, quoi.
Non mais du coup ce qu'ils disent c'est que voilà il faut quand même laisser pas mal d'humains dans la boucle parce que c'est bien d'avoir des trucs prédictifs.
Il y avait la fameuse histoire aussi de la nénette en réunion qui montre une démo sur son ordinateur et puis il y a les pubs qui s'affichent et bizarrement il y a des pubs de couches pampers etc. Et puis du coup ses collègues dans l'auditoire qui se rendent compte qu'en fait elle est enceinte et que du coup bientôt bah,
elle sera virée.
En congé maternité. Et voilà, bah c'est quoi le. Il y a quand même une responsabilité. C'est vrai que le machine learning, tous ces algorithmes intelligents qui arrivent à déduire des choses de ton comportement, bah, peut avoir des implications sur même ta vie réelle et des choses qui sont divulguées de toi à des moments où tu t'y attends pas. Et bah, voilà, il y a une responsabilité à avoir. Et à réfléchir. Donc c'est le thème de ces slides que j'avais un peu oublié, mais c'est ça.
Mais c'est ça, ouais. Et c'est pas mal parce qu'il montre pas mal d'erreurs et des types d'erreurs. Et après, il propose un peu des solutions, mais je me rappelle plus comment.
114 slides.
Sinon, il y a. Non, mais ça va vite.
Mais c'est bien.
Enfin, ça va vite quand il y a Internet. Après, sinon, sinon Google a fait des processeurs spécifiques pour le machine learning.
Ah oui, les TPU.
Les TPU. Et ils en sont assez fiers. Et en fait, il y a eu un petit coup là, dans les genoux des mecs de Baidu qui disent
« Refais l'œuvre. »
Tu veux que je te le fasse dans le...
C'est avec ta femme, ça.
Et
qui nous écoute.
On va le rated R. ils expliquent qu'ils ont gagné pas mal. Ils ont gagné 7 ans en fait de R&D et d'amélioration des CPU. Et en fait, les mecs de Baidu disent « Mais c'est super, mais on se demande jusqu'à quel point votre truc est spécifique. » Parce qu'il y a une barrière difficile entre un CPU spécifique, mais qui est du coup très spécifique à un algorithme ou des approches, et un truc qui est tellement générique que finalement, on perd l'avantage de la spécificité. Et du coup, vous venez utiliser des GPU ou des CPU génériques. Et il dit « Dans le deep learning et des choses comme ça, les algorithmes évoluent tellement. Ça, je ne sais pas comment vous avez fait. » Voilà.
Voilà. Après, j'ai pas les détails, et puis de toute façon, même si je les avais, je pense que j'aurais pas le droit de les donner. Mais les microprocesseurs là, qu'il y a dans les TPU, peut-être qu'ils sont quand même suffisamment adaptables pour évoluer en fonction des différents algorithmes qu'ils inventent, hein, je sais pas.
Mais bon, Arnaud, là, tu veux pas dire un truc?
Non.
Non, mais il est manager maintenant, tu sais. Et donc la bière, vous la buvez encore, et la troisième roue, non pas la troisième roue du carrosse, ça n'a aucun sens, mais le troisième pied du triptyque, c'est l'étape 6. C'est vous, attendez. Et encore un grand merci à vous pour ce support. Je sais que ça a été un peu difficile logistiquement d'amener tout ça. Donc,
surtout les piles des micros.
Les piles des micros.
Oui, bonsoir. Donc l'étape 6, c'est une société d'ingénierie informatique. Donc... on est là pour aider les éditeurs comme JFrog et Clever à avoir plus de monde pour développer rapidement leurs solutions. On est spécialiste des nouvelles technologies. La spécificité des
NetApp 6... c'est pas Java du coup, non?
Si, si, Java. Il y a un peu d'Angular, il y a un peu de Java, un peu de Node.js, un peu de MongoDB. L'idée, c'est que c'est créé par des développeurs pour des développeurs. Et donc, le fil conducteur de l'ensemble des collabs, c'est vraiment de s'amuser avec la technique.
D'accord.
Donc, on arrive à pousser, même au ministère de la Santé, des architectures avec de l'Angular et du Java. Donc voilà, on arrive à faire des choses, et à partir du moment où on leur prouve que ça a un intérêt et que ça va les aider à avancer.
Et autre point intéressant, vous n'êtes pas purement parisien.
Ah non, on n'est pas purement parisien. En fait, ça a été créé à Paris, mais aujourd'hui, c'est 7 agences, dont une à Madagascar. Et
Ah, faut que j'aille faire des trucs.
Donc, Johan Hébert et Jérémy Roussel, qui étaient deux en 2004, aujourd'hui, sont à la tête d'un groupe de 500 personnes. Et c'est des devs, et ils commitent encore. Hein. Il faut encore des guides push, et voilà. Et donc l'idée, c'est que tout le monde...
La question, c'est est-ce que vous êtes content qu'ils fassent encore des guides push?
Alors ça, il faut plus poser la question au chef de projet qui gère les projets sur lesquels ils interviennent. Et voilà, ils sont là pour filer des coups de main quand il y a besoin, et ça leur fait plaisir.
D'accord.
En tout cas, les...
Ouais, c'est vrai, le soleil est revenu, en fait.
Le public est au soleil.
En fait, c'est juste un énorme nuage. En tout cas,
en
merci.
Tout cas, ouais, on est bien content de sponsoriser la soirée, les cascodeurs, voilà. Et bah, merci pour ce que vous faites. À plus.
Merci à vous.
Le soleil est revenu.
Et pour ceux qui sont au soleil, vous avez chaud, vous pouvez aller reprendre une bière. Il nous reste 250 litres. Alors, outillage. Alors là, ça va énerver les gens.
Il reste une vingtaine de
Gradle. Vient d'embrasser Kotlin, le langage statique. Donc Gradle, historiquement, c'est du Groovy.
Bah, je ne sais pas si Cédric est dans la salle.
Bah, non, mais d'abord, on le casse et ensuite il vient.
D'accord, ok. Mais bon, effectivement...
Il ramasse les pots cassés, après.
À mon sens, c'est quand même mauvais signe pour Gradle de se dire on va commencer à aller voir les autres langages. Moi, Groovy, ça fait des années que j'en fais, je trouve ça très bien. Ça fait son job. On commence à aller embrasser d'autres langages à droite à gauche.
Surtout qu'avec Groovy, on pouvait faire largement tout ce que Kotlin fait. Hein.
Largement. Donc, pour moi, ça sent le sapin. Donc, je vois pas trop ce que. Bon, mais c'est l'avis d'un gars qui bosse sur Maven par rapport à Gradle. Donc,
toi, tu faisais du XML.
C'est ce que j'allais dire.
Moi, XML, j'ai aucun problème. C'est stable dans le temps. Ça fait 15 ans.
Il y a même des processeurs dédiés.
D'un autre côté, l'idée, il le supporte très bien, les outils, il n'y a aucun souci.
Alors, qu'as-tu à dire pour ta défense, accusé?
Donc vous aurez compris que je travaille pour Gradle, mais je suis aussi committer Groovy.
Ah. Donc, pas complètement. Et alors, t'es dans la merde là.
Mais oui, voilà.
Oui.
Mais non, alors.
Et donc, tu fais grève depuis 3 semaines avec le reste de la France.
Il est dans la rue.
Donc, je cherche un toit. Mais alors, il y a plusieurs raisons déjà au mouvement. Et je pense que, en fait, ça va pas être spécialement que sur Gradle que la problématique va se poser. Mais je pense que beaucoup ici utilisent Eclipse. Hein ? Qui utilise Eclipse ?
Qui utilise Eclipse ?
Donc, voilà,
il y a trois personnes. Voilà. Okay. Qui utilise IDE? Voilà. Ah, IntelliJ?
Ouais. Ah, c'est la majorité.
VI? Hein. Ouais! VI dépasse encore IntelliJ. Hein,
ils font plus de bruit.
Et donc là, Kotlin, c'est quoi l'avantage dans VI?
Alors, je dirais que l'avantage, c'est surtout que Eclipse, bah, maintenant, il n'y a plus personne qui le maintient. Donc que ça soit pour Groovy
Donc là on avait envisagé un combat de boue parce qu'il y avait de l'eau un peu là-bas. Moi j'avais pensé que Guillaume et Arnaud allaient se lancer contre toi, mais si t'attaques Eclipse je vais venir aussi.
Non mais c'est une réalité, en gros ceux qui utilisent Eclipse, je pense que la plupart c'est parce qu'ils peuvent pas, ils ont pas le choix. Voilà. Et il va y avoir un problème dans les prochaines années qu'on a déjà avec Groovy, parce que avant le plugin Groovy était fait par Pivotal. Voilà, Pivotal a lâché Groovy il y a un an maintenant, et il n'y a plus personne qui maintient le plugin Groovy Eclipse. Et en règle générale, voilà, toute la problématique c'est ça, c'est le tooling, c'est avoir du support dans l'IDE. Et c'est vrai qu'en passant par Kotlin, on a des avantages qu'on n'aura pas avec Groovy, parce que le support de l'IDE va être fait directement par Zeppelin, y compris sur Eclipse. Parce que nous, on n'a pas les moyens de faire.
Ah oui, ouais. Non mais là effectivement ils trichent, parce qu'à ce niveau-là, s'ils vont se mettre à faire de la...
Ah oui.
Contribuer à Eclipse...
Ils baissent leur froc, quoi.
Ouais, là pour le coup, effectivement, on peut rien dire.
C'est une technique.
Tu la connais?
Ouais, la technique du baissage de froc, là, c'est pas connu.
En parlant de ça, alors je suis désolé pour ceux qui sont là, mais j'ai craqué mon pantalon aujourd'hui. Heureusement pour vous, j'ai un caleçon.
Il y a du lourd, hein,
d'ailleurs, c'est Stéphanie qui a failli faire un truc énorme à Sacha en lui balançant du cidre hier soir. Trop tard. Ok.
Voilà.
Bon. Faut pas vous inquiéter si vous utilisez Groovy dans Gradle, c'est toujours supporté et ça le sera toujours. C'est un langage de plus.
C'est noté, c'est enregistré, hein. Tu t'engages au nom de Gradle.
Et donc,
ok.
Et donc, en grande tradition d'Antonio,
moi je vais faire comme Dan. Je vais me barrer
au milieu de l'enregistrement.
Au milieu de tout ça pour aller voir belle maman.
Ouais. Donc.
Non, mais attends, c'est mon ordinateur. Gentil,
messieurs, dames, je vous laisse avec ce post-cat technique et Pierre Voyure.
Mais souffle pas trop dans le visage, hein, la belle-mère.
Parce allez, que... bisous à belle maman.
Bravo, Antonio. Ouais. Bon courage. on va passer à l'architecture. Il y a un blog intéressant du CTO de Amazon qui parle de l'architecture serverless, qui est leur truc qui pousse pas mal avec leur approche lambda où on déploie juste un morceau de code et on utilise les API pour faire le reste. Donc c'est intéressant d'aller regarder. Il a plusieurs cas d'utilisation où il explique. Ce que je trouvais frappant moi dedans, c'est genre bah ouais, mettez votre code en lambda, c'est super. Et puis tout ce qui touche à la donnée, utilisez nos API Proprio, ça va super bien se passer. Et donc, effectivement, là, dès que c'est un peu difficile, il y a effectivement un service offert par AWS qui est là pour que vous n'ayez pas à gérer ce problème-là. Donc vous pouvez embrasser complètement ce truc-là, ou alors vous pouvez avoir des doutes. Mais c'est intéressant d'aller voir ce post qui explique ces choses-là.
Mais serverless, finalement, enfin, il y a quand même des serveurs quelque part. Hein. C'est juste que c'est pas les nôtres, quoi.
C'est ça. Ils gèrent plus.
Exactement ce que disait Tristan. Il disait, ouais, le cloud, c'est juste que c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc les logs de quelqu'un d'autre. Donc l'accès aux données par quelqu'un d'autre. Ah, celui-là, je l'aime bien, mais ça va être difficile à expliquer. DOS, vous savez, il y a anti-slash au lieu de slash pour les chemins. Et en fait, il y a un blog qui explique la raison. Et alors, DOS, ça a été développé à l'époque où il y avait des disquettes 5 pouces 1 quart, tout ça. Et donc, bon, même des répertoires, ça n'existait juste pas déjà. Donc, il n'y avait pas de problème de passe. Et les mecs de IBM, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, du coup, ils ont utilisé slash pour le séparateur des propriétés dans les commandes. Au lieu d'avoir tiré historiquement dans Unix, ils ont utilisé slash parce que je ne me rappelle plus, ils utilisaient tiret pour autre chose, je ne me rappelle plus. Et du coup, à un moment, ils ont dit à Microsoft, bon ben maintenant on veut des répertoires, merci de trouver une solution. Donc Microsoft, ils se sont dit, ok, on va regarder. Ça va, non. Et ils se sont dit, bon, ben, il y a plusieurs options, il y a des gens qui utilisent des chevrons avec des deux points, mais alors deux points, on l'utilise déjà pour ces deux points, donc ça c'est mort. Slash, du coup, c'était utilisé pour la propriété, donc c'était un séparateur vraiment différent. Donc là, ils se sont dit merde, ça marche pas. Du coup, ils ont décidé de prendre anti-slash. Et en fait, la compatibilité à l'époque entre le système d'exploitation du voisin, on n'était pas dans la dignité, hein, quoi.
C'est ça.
Et donc, c'était pas un problème hyper important. Mais en tout cas, je sais pas si c'est encore le cas, mais dans MS-DOS, il y avait des variables d'environnement pour surcharger le switch des propriétés, donc le slash, et pour surcharger le séparateur de chemin. Donc tu pouvais faire l'unixisation de ton MS-DOS. Donc, c'est un petit post intéressant à voir, à lire. Bon, pour ceux qui sont au-dessus de 30 ans.
Personne n'utilise Windows. qui a déjà utilisé le DOS pour de vrai? Ah, il y a quand même des vieux dans l'assistance.
Qui a déjà effacé? Bravo, Audrey, bravo. Ça va que c'est un podcast audio. Hein. Qu'est-ce que je disais maintenant? Voilà.
Tu voulais une bière.
Qui c'est qui a déjà effacé, je sais pas quoi, ces deux points.
Ah oui, bah moi j'ai déjà effacé autoexec.bat et config6 et à me dire merde, qu'est-ce que je fais? Pas mal. Eh bien, j'ai réinstallé le système, c'est le seul truc que je savais faire à l'époque. Qui utilise le SMS pour les. Vous savez, le double facteur d'authentification pour les mots de passe. Vous savez que c'est moyennement sécure. C'est pas grave, on s'en fout. Hein.
Ouais, c'est
de la sécurité par décoration. Non, mais le SMS, c'est le truc qui est très... qui, en fait, on peut très bien spoofer, recevoir les SMS des autres, etc. etc. Donc c'est...
Et puis avec les nouveaux, les Apple messages, etc. De toute façon, c'est même plus vraiment des SMS derrière. Est-ce que non, ça passe quand même
Est-ce que
ça passe
quand même par les SMS, le SMS ou... parce que... ouais. Alors maintenant, ils ont peut-être annoncé des nouveaux trucs, mais non, tu ne peux pas, en tant que système, envoyer des iMessage, je crois. Donc, si vous avez le choix, préférez les applications Google Authenticator ou FreeOTP, qui est fait par un gars de Red Hat, plutôt que le SMS. C'est beaucoup plus sûr, ça reste sur votre téléphone.
Il a quand même cité Google en premier.
Attends, il y a quelqu'un qui râle.
Ah, attention, Emmanuel saute.
Faut que ce soit proposé. Tu l'as pas beaucoup cette option-là en fait.
Non mais tu l'as au moins chez Google, Apple et ces choses-là. Mais effectivement, ta banque elle te le propose pas. Ouais. Ouais. D'accord. Et en fait, il y a un truc qui est chiant, c'est quand on change de téléphone, c'est la chienlit d'avoir ces applications-là.
Oui. Ouais, c'est ça. Parce que pour se rebinder toutes les applis et la refaire.
Et il y en a qui proposent pas vraiment de solution de backup. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe si tu l'as oublié. Non, non, mais si tu. YubiKey. Si t'en as une demi-douzaine, quoi. Mais bon.
Ouais. Ouais. Moi, j'en ai plus. YubiKey, code extérieur, mais effectivement.
Voilà, sinon, on va parler. Ouais, on va passer. Stratégie et méthodologie, en gros, la catégorie fourre-tout. Google, vous vous rappelez, il y a eu un gros combat Google Oracle sur les API Java dans Android. Ouais. Ils ont perdu sur le fait qu'on n'a pas le droit de... que les API ont un copyright dessus. Ils ont été à la Cour suprême qui a dit « Nous, on veut pas... ça nous intéresse pas pour l'instant. » C'est-à-dire que c'est pas un débat, ça n'a pas l'air mature, donc c'est pas un débat sur lequel on veut trancher.
Statuer,
merci. Par contre, ils ont gagné en termes de fair use, c'est-à-dire que... je sais pas si ça existe en France, le fair use, pour être très honnête. Ça n'existe pas dans le droit français, mais en droit américain. Quand on utilise un petit morceau dans un contexte sans plagiat absolu, voilà, il y a la notion de fair use, donc les API sont dans le fair use. Donc c'est gagné, entre guillemets. Alors évidemment, ils vont faire appel, hein, mais ça c'est bien.
On ne paye jamais assez ces avocats.
C'est pas une super nouvelle pour nous, parce qu'effectivement, le fait que les API soient copyrightables, c'est un problème. Le fair use, il faut savoir le défendre, hein, ça demande un peu d'argent.
Ce qui était intéressant dans ce dossier, moi ce que j'ai lu récemment, c'est que le juge qui était en charge de tout ça, de toute l'étude, qui lui n'avait aucune compétence et aucune connaissance informatique, pour l'occasion, s'est formé sur les technologies, sur les notions d'API, de développeur, de code, parce que et j'ai trouvé ça.
Il avait appris Java en fait.
J'ai trouvé ça super intéressant parce que dans nos métiers, effectivement, on est dans nos sphères, on fait nos trucs et ces gens-là, c'est vrai que des fois, ils ont à acter et à prendre des décisions sur des domaines qu'ils appréhendent pas du tout et généralement, on est là à dire mais putain, ces mecs, ils comprennent rien, ils prennent des décisions sans rien comprendre.
C'est un peu comme nos députés, quoi.
C'est un peu comme nos politiciens, oui, ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, il a fait l'effort de se former.
Pas
de
comme nos politiciens.
Pas comme nos politiciens, c'est ça. C'est un podcast technique, c'est ça. Technique. Mais
tu sais, on était à deux doigts qu'il était obligé d'apprendre ce cas-là, et là, ça aurait été complètement différent.
Mais voilà, j'ai trouvé l'anecdote et le principe intéressant, effectivement, du gars qui fait l'effort d'apprendre en.
Eh les gars, vous pouvez parler un petit peu moins fort, on fait un podcast.
Buvez plus, mais parlez moins.
Ouais, buvez plus, parlez moins. On sait que plus on boit, plus on parle fort et on boit. Et il y a un petit truc intéressant de Joshua Bloch qui a listé les API qui ont été copiées sans que les mecs aient fait les procès derrière. Ouais. Ouais. Fortran. Ça, je connais pas. IBM S360 ISA.
Ouais.
La librairie C qui a été fait par Bell Labs et AT&T, les appels système Unix, le VT100, les codes d'échappement, l'IBM PC BIOS, qui a été copié par Phoenix. Vous vous rappelez, vous avez écrit Phoenix quand vous démarrez.
Qui démarrait un ordinateur avec un Phoenix BIOS au début? Voilà, c'est les mêmes qui avaient du DOS. Ouais, c'est ça, il faut crier fort.
La ligne de commande MS-DOS qui a été reprise par FreeDOS. Parce que c'est ça. IS-80 CMD7 qui a été inventé par je sais pas qui et copié par je sais pas qui. Ouais.
Postscript
qui a été réimplémenté par GNU GhostScript. Ouais. Hein. C'est des API hein, quand on réfléchit au truc. SBM Samba en gros. Ouais.
Vas-y.
Tu peux continuer longtemps. Ouais. Mais je pensais juste un point sur le C là, j'avais entendu Bjarne Sostrup, il s'en mordait les doigts quand même. Lui il aurait bien aimé gagner plus d'argent avec le C.
Ouais. En tout cas, voilà, il y a les Win32, enfin il y a plein de choses sur lesquelles il n'y a jamais eu ce problème. Et effectivement, Java et.
Java et Google. Java 2 et Google. Java 2, puisque.
Java 2.
C'est les API de Android sur un 2.
Sinon, il y a un petit article, je vous laisserai le lire, sur les interruptions. Ce qui est intéressant, c'est que la moyenne mesurée du temps avant une interruption, quand on travaille, vous pensez que c'est combien de temps? Allez, une heure.
Ok.
Une demi-heure. Un quart d'heure. Ok.
Un quart d'heure, un peu de monde.
10 minutes.
C'est un podcast audio, s'il vous plaît.
5 minutes. 3 minutes. 2 minutes. 1 minute. Ok. Donc, ouais, la plupart des gens pensaient entre 10 minutes et 5 minutes. Il y a un petit groupe à 5 minutes. En 2004, c'était autour de 3 minutes. En 2008, 2 minutes 30. En 2012, 1 minute 15.
Vive les réseaux sociaux!
Et les gens disent, ouais, mais c'est parce que les mecs, ils viennent me saouler. Tu vois?
C'est vrai.
Et ils ont considéré que les notifications d'email, c'est des notifications extérieures. Donc, ça peut se désactiver, hein, juste pour rappel. 2, vous pouvez ne pas allumer Twitter, ça, juste pour rappel.
3, vous pouvez.
Et 3, visiblement, la moitié des interruptions sont en fait des interruptions internes où on décide de changer de sujet. Ouais. Donc c'est une catastrophe. Et faites l'expérience, essayez mentalement dans le background de regarder quand est-ce que vous faites des switches. Effectivement, c'est hyper souvent.
Mais faut utiliser Pomodoro pour ça. 20 minutes, tu bosses, tu coupes tout. Tu bosses 20 minutes, tu fais une pause, tu reposes 20 minutes, tu fais une pause, voilà.
Bon, on va passer. Et là, Vincent, sous le camion, la rubrique des débutants, explique-nous final et l'immuabilité.
Alors, c'est une rubrique, pour ceux qui ne connaissent pas, pour essayer d'expliquer tous les jargons techniques qu'on utilise normalement à des gens qui débutent.
Et intelligemment, on le met à la fin de l'épisode.
C'est ça. C'est ça. Et une fois qu'ils sont complètement saoulés, qu'ils n'ont rien compris, etc.
Donc là, aujourd'hui, c'est quoi? Final, c'est
le keyword final, le keyword, en Java.
Keyword final. En Java. Alors,
et du coup, l'immuabilité, on pense que tu vas discuter un peu de ça. Fais gaffe, il y a un mec qui fait du Scala qui est pas loin.
Au final, le principe est de dire, quand tu écris du code, qu'une variable, un paramètre de méthode, etc. Je ne vais pas expliquer variable, paramètre de méthode, ça va?
Ça va. Okay. Le prochain épisode, on fera variable versus paramètre de méthode.
Pour exprimer que il ne peut pas être changé, il ne peut pas être modifié,
remplacé. D'accord. Il ne peut pas être remplacé.
Et c'était une fois, et qu'après, une fois que c'était, il ne peut pas être modifié.
D'accord. Donc
ce qu'est l'intérêt. Alors, quel est l'intérêt, notamment, c'est que quand tu as une méthode, tu as des paramètres en input, par exemple, et tu as envie clairement de pouvoir voir qu'est-ce qui va être modifié à la sortie après que ta méthode soit appelée, et de vérifier que tu n'as pas d'effet de bord, par exemple, sur des paramètres qui seraient modifiés à l'intérieur de cette méthode.
D'accord.
Donc ça te permet, de, en tant que lecteur de code, d'accord, d'identifier ça et de limiter les bugs.
Donc, historiquement, ça a aidé le compilateur à être plus performant. Maintenant,
il y a des optimisations, mais c'est ça. C'est ça. À l'époque, ça.
Personnellement, je n'utilise pas trop. Il y a des cas où utiliser. Pour les méthodes, je trouve que c'est un peu intéressant.
C'est utile sur les variables d'objets, parce que pour le coup, là, le compilateur et la JVM, la JVM en l'occurrence, sait faire des choses plus intelligentes. Mais il y a un effet pervers à final, puisqu'on avait parlé des références versus des valeurs.
Voilà.
Alors vas-y.
C'est là que ça devient intéressant.
Et tiens, je t'en fous là.
Allez. Merci. Je sais pas de quoi tu parles. Alors.
Je sais pas de quoi je parle.
Donc quand on passe un objet, oui c'est ça.
Voilà.
Quand on passe un objet, par exemple, en paramètre de méthode.
Voilà.
Genre une date.
Une date.
N'importe.
Vas-y.
Un objet qui lui-même peut avoir plusieurs états.
Voilà.
Voilà, donc c'est là. Cet objet-là, on ne pourra pas modifier sa référence.
On ne pourra pas le remplacer, voilà.
Mais, malheureusement, en fait, en Java, on est capable de modifier un état interne de cet objet, notamment.
On peut faire
lui-même, mais quelque chose qui est contenu dans cet objet. Donc, en fait, on peut pas garantir complètement l'immuabilité.
Donc, en fait, c'est pas si. En tout cas, c'est finalement beaucoup moins utile que ce qu'on pourrait penser quand on démarre.
C'est ça
qu'il faut retenir. Et très peu de gens l'utilisent, à part au niveau des propriétés des objets, parce que ça fait beaucoup plus de verbosité que d'avantages finalement.
Ah, mais disons qu'en gros ça reste au niveau lecture du code, tu peux voir l'intention qui est de ne pas modifier ça.
Ouais. Ouais, mais après,
c'est pas garantir.
Mais c'est... Il y a Tolesco après.
Ça reste historique parce que pour moi qui traîne pas mal dans le code de Jenkins, qui a été écrit il y a plus de 10 ans pour le début, un certain Koshuke était fan des Final, et tout est Final dans Jenkins.
Et modifié.
Y compris l'interface.
Ouais, c'est ça. Et donc c'est juste insupportable. Dès qu'on veut moquer quelque chose, dès qu'on veut changer quelque chose, il faut tout tricher partout.
Ah oui, mais c'est bon, pas bien de se moquer quand même.
Bon, faut pas se moquer, voilà, mais c'est ça. Et donc, mais voilà, mais c'est historique, parce qu'il y a 10 ans, effectivement, ça aidait la JVM. Il y avait plein de raisons qui, au-delà du fait fonctionnel de bloquer le remplacement de la référence, faisaient que c'était utile. Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, ça reste, surtout en Java, peu utilisé.
Ouais, bah je pense que c'est une des expérimentations. Fallait essayer. Au final, bon bah, c'est pas vraiment.
Mais on n'a pas d'objets immutables, sauf si on les design en tant que tel. Donc, ouais, il faut effectivement designer l'objet de manière à ce que l'on ne puisse pas l'éditer après sa création. Donc, pas de setter, pas de méthode qui modifie son état. Et voilà, donc
pas
ça c'est
immuable,
voilà, et en plus oui aussi et c'est le seul moyen de le faire. Et ce qui change par rapport à d'autres langages comme Scala et d'autres qui eux permettent, ont des structures tout du moins qui permettent d'avoir ce type d'objet qui ne change pas et qui ne peuvent pas être modifiés du tout.
Ouais, c'est bon,
c'est le moment.
Là je pense que le débutant il va pouvoir le réécouter 3-4 fois quand même. Bon, conférence, on va juste parler de Scala.io qui a ouvert son CFP. Alors, aucune idée de quand c'est. Ah si, c'est à Lyon en tout cas. Internet, le CFP ferme le 5 septembre, donc la conférence sera après le 5 septembre 2016.
Le SummerCamp doit être encore ouvert, je pense.
Deuxième partie d'octobre.
Deuxième partie, ah ouais. C'est un peu la méthode Quentin. On vous fixera la date et l'endroit. À un moment.
À un moment, juste avant.
Late binding, on appelle ça. D'ailleurs, t'as un petit mot de la fin avant qu'on ferme. Ah, tu vas trouver la date. 27 octobre, et... non, 27-28 octobre, Lyon, France, 2016.
Voilà. Ok. Il était plus rapide que toi, hein,
un petit. Bah, tu fais combien de confs par trimestre, toi, finalement, en termes d'organisateur si...
En termes d'organisateur, moi, j'en fais une à l'année. C'est pas mon travail d'organiser des conférences.
D'accord. Mais t'es quand même pas mal impliqué dans...
Ça se cale pas trop. Hein.
J'ai été très impliqué sur certaines versions de Scala.io, beaucoup moins sur celle-ci. Mais ça roule super bien en fait, ouais. Scala.io. Cette année, c'est Jean qui a beaucoup fait de travail. En fait, en général, c'est le lead change dans Scala.io.
D'accord.
C'est lui qui a envie de faire. Ce qui sera très sympa cette année, c'est qu'il y a une grosse partie de la communauté pure Scala.io, très Scala, mais pas nécessairement venue de TypeSafe / Lightband. Mais venu vraiment de la communauté qui sera présente, qui fera un summit en même temps.
D'accord.
Et notamment, il y aura des questions sur l'évolution du compilateur, etc. Enfin, ce sera assez cool.
Bon, et à quand Rust.io alors?
Ah, tu titilles là, tu le titilles.
Alors, c'est bon, quand même, hein. C'est bien Rust, non?
On pourrait faire un gros track Rust si vous voulez l'an prochain au Tech Today, si ça vous dit de revenir.
Non, tu vas encore te faire engueuler. Bon, ceci conclut notre podcast. De toute façon, il y a la moitié des gens qui n'écoutent plus. Enfin, c'est la
dope. Ils se traînent par terre.
Merci de nous avoir écoutés. Écoute, c'est pas mal en fait dehors. C'était bien.
C'est bien.
Merci de se dire, allez, on le fait dehors, on trouve une estrade d'électricité.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans ces conditions complètement aléatoires et bordéliques.
C'était top.
Merci beaucoup, c'était vraiment super. Bah,
c'est le côté artistique de Nantes en fait.
Merci beaucoup, Quentin.
Le logo n'a pas été fait par le comic strip.
Malheureusement. On en voudrait bien, hein, d'ailleurs. Ils sont où, là?
Ils sont pas loin.
Ah, là.
Super, merci tout le monde. Vous pouvez parler maintenant.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée à tous, merci.
Ciao.